Léla Savitch, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à Entretien journalistique.
Merci, merci de me recevoir.
Tu es la fondatrice et rédactrice en chef de La Converse, qu'on connaît un peu, bon, dans le milieu, donc, j'allais dire des médias un peu plus, petits. Je pense qu'on est tous entre nous, en nous, ça met tous un grand média, mais bon, média peut-être plus, moins mainstream, si on veut. Mais pour ceux qui connaissent pas la Converse, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est la Converse, justement?
Oui, La Converse est un média francophone à but non lucratif qui sert les communautés marginalisées à travers le journalisme de dialogue.
Et justement, cette expression-là, journalisme de dialogue, bon, c'est pas la première fois qu'on dit que, par exemple, les grands médias ne sont pas à l'écoute de la population ou qu'il y a une déconnexion. Il y a du vrai, il y a du faux là-dedans. Bon, on n'est pas non plus là pour faire le grand débat philosophique sur ce lien-là avec nos lecteurs, nos auditeurs et tout ça. Mais cet angle-là de dialogue, qu'est-ce que ça veut dire comme tel?
En fait, l'idée, c'est que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas nécessairement confiance dans les médias, surtout les communautés racisées, invisibilisées, marginalisées. Et donc, des fois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de chroniques sur ces enjeux-là, mais il n'y a pas vraiment de reportage, de journalisme, ce qu'on apprend à comprendre ce qui se passe pour ces personnes-là. Et donc, nous, dans le journalisme de dialogue, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de créer des ponts entre les gens dans la société pour qu'on puisse justement avoir ce dialogue-là. Donc, c'est pour ça qu'on le fait, c'est vraiment pour qu'on puisse servir ces communautés à travers notre journalisme. Donc, c'est un peu de ça que je parle quand je parle de journalisme de dialogue. C'est vraiment un journalisme qui fait du bien aussi. Donc, qui rajoute pas de l'huile sur le feu, qui est pas dans le sensationnalisme, mais qui est vraiment un service aux communautés à travers une approche de dialogue, à travers une approche qui est pas dans l'attaque, qui est pas dans les accusations, mais qui est vraiment dans les faits et dans le terrain.
Tu as déjà travaillé chez Métro, à Radio-Canada, à la presse. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'un jour tu t'es dit, bon, ben moi, je décide de lancer mon propre média?
My God. Plusieurs choses. En fait, déjà, quand j'étais aux études, au certificat en journalisme à l'Université de Montréal, je voyais que mes collègues, comme moi, donc la plupart des personnes racisées, nous, on n'avait pas encore une job dans les médias, comparativement à nos collègues blancs qui avaient déjà, non pas un stage, là, mais qui avaient déjà un emploi à Radio-Canada alors qu'ils venaient de commencer leurs études. Donc, pour nous, c'était beaucoup plus difficile. On se voyait pas offrir ces opportunités-là. Puis, je me rendais compte que la plupart des personnes qui avaient déjà ces opportunités, ben, c'était souvent maman, papa est journaliste. Je connais quelqu'un qui est journaliste. Donc, c'est des gens qui étaient un peu dans le collimateur des médias de par leurs connaissances. Donc, finalement, c'est beaucoup de réseautage, hein. Je pense qu'on ne dit pas beaucoup, mais le milieu journalistique, il y a beaucoup de népotisme. Et il y a beaucoup de réseautage. Si tu fais pas partie de ce réseau-là, ben bonne chance pour te trouver un job. À l'époque, parce que moi j'étudiais en journalisme, c'était effectivement le cas. En rentrant dans ces grands médias-là, j'ai découvert qu'il y avait certes des initiatives de la diversité, mais je trouvais que c'était un peu en surface. C'est-à-dire que c'était, oui, certes, on voulait une diversité de couleurs, mais voulais pas ce qui vient avec. Et donc, il n'y avait pas vraiment d'endroit, d'après moi, où est-ce que moi, personnellement, je sentais que je pouvais vraiment être complètement moi-même, mais aussi vraiment faire ces sujets-là sans devoir toujours me battre avec mon rédacteur en chef. Là, je dis me battre, là, c'est tenir mon bout, comme on dit, pour convaincre mon rédacteur en chef que c'est un reportage sur le racisme systémique, c'est important. Que ces enjeux-là qui touchent ces communautés sont importants. Et donc, ça fait en sorte que finalement, tu es très découragé, tu n'as plus vraiment envie de faire ça parce que c'est difficile de faire comprendre, en fait, à des personnes qui ne vivent pas nécessairement ces situations, qui sont pas sensibilisées aussi à ces situations-là, que ces sujets-là sont importants. Puis après, j'ai fait voyage aussi dans les Balkans après la presse, parce que j'étais avec plusieurs journalistes d'investigation dans les Balkans. Tu sais, pendant que moi je tripais sur mon fait divers à la presse, ben eux faisaient des trucs sur la corruption du président Napolitano. C'est comme pas vraiment la même paire de manches. Et à travers ces contacts-là et d'autres que j'ai découvert qu'en fait la plupart des journalistes viennent de ce qu'on appelle le sud global ou des pays où est-ce qu'il y a une attaque à la démocratie, ben le journalisme que ces personnes le font, moi c'est le genre de journalisme que je veux pratiquer. Et ce journalisme-là n'existait pas en français au Québec. Déjà, il existe rarement au Canada. Puis il y a des initiatives comme ça, par exemple au Canada, tu avais The Discourse. Donc c'est d'ailleurs avec eux qu'on a réussi à commencer la converse, mais il n'y a pas beaucoup d'initiatives qui font vraiment du journalisme qui s'intéresse aux enjeux de justice sociale, qui s'intéresse aux droits de l'homme, c'est un peu démodé comme terme, mais droits de la personne. Donc il va vraiment dans le fond des choses, qui fait de la profondeur et qui a ce regard-là pour moi de reportage. Tu sais, je trouve que oui, certes, il y a d'autres médias. Ils ont peut-être des atomes crochus avec nous, mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'opinions que de journalisme. Et pour moi, il y a trop d'opinions dans le journalisme au Québec. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai créé la Converse, pour que, d'ailleurs, à la Converse, il n'y a pas d'opinions, c'est que du journalisme. Donc, voilà.
J'aurais une question concernant le fait de pouvoir écrire pour la Converse. Parce que, bon, toi, évidemment, toi, c'est des choses que tu as vécues toi-même. Tu disais, bon, tu es une personne racisée. Est-ce que c'est essentiel de dire j'ai un bagage? Ou est-ce que, par exemple, bon, est-ce qu'un journaliste, pour prendre un exemple, un journaliste québécois blanc, francophone, arriverait? Puis dirais, moi, j'ai un intérêt pour créer pour la Converse. Est-ce qu'il y a une espèce de formation, une vérification de ce que cette personne-là comprend les enjeux? Est-ce qu'il y a une étape peut-être de plus? Sans dire qu'il y a de la discrimination ou quoi que ce soit, mais on s'entend que c'est des sujets qui, peut-être moins, effectivement, moins souvent traités dans les grands médias, pour toutes sortes de raisons. Est-ce que ça prend une étape de vérification de dire est-ce que cette personne-là, comme un pas spécialisé en sport, par exemple, ou en économie, cette personne-là connaît les enjeux, comprend les enjeux traités par la Converse.
Mais c'est sûr que si j'ai un journaliste sportif qui me dit je vais écrire à la Converse, je vais peut-être. En fait, ce que je fais, c'est que je les envoie sur le terrain. Donc, je fais un test des fois, puis je vois ce qu'ils donnent. Si je vois que ben ces personnes ne comprennent pas, ben je n'irai pas de l'avant. Ou par exemple, des fois, je pose beaucoup de questions. Donc, dans le processus d'entrevue, nous, justement, on pose des questions en lien avec ces enjeux-là. Donc, fais-tu partie d'une communauté marginalisée? C'est quoi le sujet que tu me peux créer en fonction de ça? Comment t'agis sur le terrain quand X, Y, Z arrive? Donc, on prend le temps de comprendre vraiment est-ce que cette personne-là a déjà une sensibilité envers ces enjeux-là? Est-ce qu'elle va vraiment être capable de se décentrer et de comprendre? Parce que c'est bien beau de dire, oui, moi, la diversité, c'est important, mais tu sais, si tu arrives sur le terrain, tu fais des gaffes, tu représentes quand même un média qui se dit vraiment, comment dire, servir ces communautés-là. Donc, tu ne peux pas vraiment te permettre de faire des erreurs importantes quand tu sers la communauté. Donc, en fait, nous, notre approche de base, c'est qu'on ne cherche pas nécessairement à embaucher des journalistes. On embauche des gens qui savent connecter avec les communautés, qui les comprennent, ces communautés-là, profondément, et on les transforme en journalistes, plutôt que de dire, ah oh ben, on cherche n'importe quel journaliste à la pige qui va venir nous écrire un tel sujet. On n'a pas beaucoup de pigistes. Ceux qui travaillent avec nous, c'est vraiment des gens qui comprennent la Converse en fond en comble. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas de personnes québécoises blanches, pas du tout. D'ailleurs, on a quelques-uns de nos collaborateurs qui sont blancs. J'ai un journaliste à l'air en ce moment qui est français aussi. Donc, on a diverses personnes. Pour moi, la question, c'est vraiment, est-ce que tu comprends les enjeux-là, est-ce que si tu ne le fais pas, est-ce que tu es capable de te décentrer est-ce que tu es capable vraiment de réfléchir à tes propres privilèges, de les comprendre, puis de vraiment servir la communauté. Donc en fait, je te dirais, moi ce qui m'intéresse, c'est pas qui écrit le reportage, c'est qui est la personne qui est le mieux placée pour servir la communauté. Donc je un exemple, c'est à un moment donné, on travaillait sur un sujet avec Julien. D'ailleurs, on a été nommé pour ce prix-là. Julien Forêt, qui est un de nos journalistes qui était en stage à l'époque, qui est maintenant au Devoir. Et c'était sur les blessures que vivaient les familles par rapport à la violence armée. Donc, c'était la sœur de Myriam Bounaoui, Safia Bounaoui, il fallait qu'on lui parle, qui ça allait faire un an que Myriam était morte. C'est une jeune fille qui est morte de balles perdues. Et donc, il fallait faire une entrevue avec la sœur de la défunte. On avait fait vraiment une enquête pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe par rapport aux enquêtes policières, parce que ça faisait un an, puis on savait toujours pas qui l'avait fait, pourquoi, comment, alors que dans la rue, les gens disaient savoir qu'est-ce qui se passait. Donc, quand on est allé couvrir une manifestation, c'est quelque chose qui est ressorti. Plusieurs parents disaient, là, vous faites des enquêtes, mais soi-disant, vous savez pas c'est qui, mais plusieurs personnes disent savoir c'est qui. On veut savoir qu'est-ce qui se passe avec ces enquêtes-là. Et donc, on a divisé la tâche. Puis tu vois, Julien a fait un travail de data, donc il a vraiment fait toutes les données. Et pour aller interviewer Safia, mais c'est moi qui suis allée parce que j'étais capable de créer ce lien. Donc, on a juste décidé que ça allait mieux passer si c'était moi que si c'était Julien. Donc, c'est comme, je te donne un exemple, mais ça te permet un peu de comprendre comment on réfléchit à la conversation. J'ai un sujet en lien avec la communauté asiatique. J'ai une journaliste d'origine asiatique qui a une connaissance qui est à l'aise, ben je vais envoyer cette personne-là plutôt qu'envoyer, par exemple, moi, tu sais, couvrir ce sujet-là juste parce que ça me tente. Et je trouve que des fois, en journaliste, cette question-là, c'est souvent, ben là, tu es en train de dire que parce que je suis blanche, je peux pas, mais tu sais, it's not about you. Fait que, en fait, je m'en fous que ça soit toi ou Jean-Jacques, ou peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu es la meilleure personne pour comprendre le sujet? Est-ce que toi, tu vas faire en sorte que les gens se sentent plus à l'aise? Ou est-ce qu'il y aura justement, comment dire, une distance entre toi et la communauté, puis ça va prendre plus de temps de créer ce lien. C'est correct que ça prend plus de temps, mais c'est juste d'utiliser les ressources et les forces et les faiblesses de tout le monde. Donc, à la converse, on réfléchit vraiment à ça, à c'est quoi les forces et les faiblesses de tout le monde, comment, avec ces forces et ces faiblesses-là, c'est qui la meilleure personne, la mieux outillée pour travailler sur ces enjeux-là. Si la personne n'est pas outillée, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'outiller?
D'ailleurs, parlant d'outiller les gens, là, j'ai sur mon autre écran, pendant qu'on se parle, j'ai la page de l'école Converse,
Oui.
qui donc, c'est ça, vient, l'idée, c'est de former justement des nouveaux journalistes avec cette question-là de connaissance des enjeux, question-là de connaissance du milieu, puis bon, des gens. Est-ce que ça aussi, ça faisait partie dès le départ de l'idée de dire, on crée la Converse et ensuite, dans la foulée, on va créer cette école-là pour finalement, donc, avoir ces classes-là de journalistes qui comprennent les enjeux.
Ouais. Mais en fait, je te dirais que oui et non. C'est-à-dire que moi, c'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire depuis longtemps. Mais en même temps, quand j'ai lancé la Converse, tu sais, je cherchais des journalistes qui pouvaient couvrir les communautés. Puis en français, il n'y en a pas beaucoup. Les journalistes racisés, faut le dire. Puis la plupart de ceux qui étaient là, ben, ils ont déjà une job dans un autre média. Donc là, à la pige, t'as très peu de journalistes issus des communautés racisées qui ont ce que j'appelle, moi, des compétences culturelles et des compétences journalistiques. Et donc, en fait, je réalisais que, tu sais, il y en avait quelques-uns qui venaient vers moi, mais qu'ils n'avaient pas nécessairement les compétences pour faire le journalisme que moi, je voulais qu'on fasse à la Converse. Donc, c'était pas une nouvelle ou une couverture d'événement, c'est vraiment des reportages de fond, là. Et nous, c'est du 2000 mots et plus à chaque semaine. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on a créé l'école Converse, en fait, parce que finalement, je te dirais, par défaut, je me suis retrouvée à être professeure de journalisme. Donc, les jeunes que je prenais au début, c'est des gens qui n'avaient pas nécessairement toutes ces connaissances en journalisme, mais je leur montrais à le faire. Et c'est pour ça qu'au début, on faisait qu'un reportage cette semaine, parce que je prenais toute la semaine à m'asseoir avec la personne, leur expliquer comment on le fait, vraiment prendre le temps avec eux, avoir une V1, une V2, une V3. Puis, tu sais, je ne suis pas jusqu'à temps qu'on l'aille, tu sais. Puis, beaucoup, beaucoup, beaucoup de corrections, beaucoup de formations là-dedans. Et donc, par défaut, la Converse est devenue une école, en fait, pour les journalistes, surtout les journalistes issus de la diversité. Donc, en fait, c'est ça. Moi, je prenais des gens qui n'étaient pas nécessairement journalistes, qui n'avaient pas fait une école en journalisme non plus. Et c'est, je l'ai transformé en fait en journalisme à travers l'approche qu'on avait. Et c'est par la suite justement qu'on a pu développer la première école Converse en ligne avec LUCO, avec la professeure Caroline Cruchon. Puis après ça, on en a fait une autre en personne parce que la pandémie vient un peu slow down. Et voilà, et puis là, je pense qu'on est rendu à la sixième édition. Donc, voilà, puis on a plusieurs tomes qui arrivent là.
De ce que je comprends, donc c'est ça, c'est vraiment une approche qui est davantage qualité plutôt que quantité quand on parle de contenu. Malgré tout, bon, tu sais, comme je le sais très bien, pour se faire connaître, pour se faire entendre, quand on possède pas un canal de diffusion traditionnel, donc la Converse, c'est pas la télé, c'est pas la radio, c'est pas le papier, on est sur le web, il faut un peu s'assurer de crier plus fort que les autres dans le vide, un peu, de dire, bon, d'essayer de rejoindre les gens, finalement, que ce soit par Facebook, Twitter, ailleurs, bon. Comment est-ce qu'on s'assure à ce moment-là de dire, bon, ben, une fois par semaine, ou bon, deux fois par semaine, ou peut-être un peu plus souvent, mais certainement pas plusieurs fois par jour, de dire, bon, ben, voici ce qu'on vient de publier, et de s'assurer d'aller rejoindre notre public pour que finalement les gens qui sont intéressés puissent voir ça passer là, dans leur fil de nouvelles ou ailleurs.
Mais là, est-ce que tu me poses la question avant séduite ou après?
Oui, ben c'est sûr que là, bon, Facebook, le blocage des nouvelles, ça a fait mal à beaucoup, beaucoup de médias. Je continue de trouver ça étrange que Piove ne soit pas bloqué, mais que Rebel News le soit et que Beaverton le soit aussi. Mais je ne suis pas dans la tête des gens de chez Facebook. Mais oui, effectivement, j'imagine que ça a changé quelque chose aussi, le rendu là.
Effectivement. Tu sais, je te dirais que nous, en fait... on a une manière de travailler qui est très organique, c'est-à-dire qu'on sert les communautés. Avant Séduite, je te dirais, tu sais, le public venait naturellement vers nous. Tu sais, on avait fait un peu de publicité sur Facebook, mais pas beaucoup, parce que justement, je trouvais que c'était beaucoup d'argent, puis ça fonctionnait plus ou moins bien. Puis, bref, donc, notre public a grandi vraiment, comme on dit, « organically ». Voilà. Tu sais, les gens, quand on faisait des reportages sur eux, ils partageaient dans leur réseau, puis etc. Fait que, tu sais, ça créait vraiment une communauté. Beaucoup, beaucoup, d'ailleurs, sur Instagram. On faisait des reportages que sur Instagram, d'ailleurs. C'est comme ça aussi que je formais les jeunes à l'école Converse. Donc, tu sais, vraiment, Instagram, je faisais la couverture de manifestations à travers juste Instagram. Donc, on avait vraiment des trucs qu'on avait créés que pour ça. Qui nous permettait de faire un peu comme de la nouvelle, mais des fois, je découpais carrément les reportages sur Instagram parce qu'on fait pas de pub. Donc, moi, le nombre de pages vues, je m'en fous un peu. Ce qui m'intéresse, c'est que le contenu soit lu et véhiculé, transmis. Et donc, sur Instagram, on avait énormément d'engagement. D'ailleurs, il y a des gens qui, quand je faisais des entrevues dans les cégeps, les jeunes me disaient « Ah, la Converse, je vous suis sur Instagram. » Tu sais, fait qu'il y a des gens qui nous connaissaient juste à travers ça. Fait que c'était vraiment comme ça qu'on l'a fait, c'était très naturel, c'est-à-dire que voilà, on a un peu investi dans le marketing, mais pas beaucoup vraiment au début, tu sais, c'était très 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 organique, puis ça marchait bien, tu sais, les gens nous connaissaient, puis on commençait à grandir. Avec C18, ça nous a vraiment vraiment fait mal, parce que ben justement, nous, notre page Instagram, c'était tout pour nous. Tu sais, Facebook aussi, mais moi, on s'entend que c'est plus à la mode, là. Apparemment, c'est juste des vieux sur Facebook. C'est ce qu'on se fait dire. En tout cas, ce que je me fais dire par mon équipe. Et puis, dans l'école Converse, qu'on faisait du recrutement, qu'on avait des postes à annoncer, les gens nous écrivaient là-dessus. Les gens venaient nous écrire sur notre page pour nous dire, hey, est-ce que vous pouvez faire tel sujet? C'est qu'on a vraiment un engagement très significatif dans notre page Instagram, là. C'était énorme pour nous. Là, maintenant qu'on l'a plus, ben, on essaie de se tourner vers TikTok. On a investi justement dans le marketing, puis on essaie de réfléchir à comment faire les choses différemment. Mais je t'avoue que c'est très, très, très difficile. Moi, je paierais cher pour la revoir, là, ma page Instagram. Là.
Non, je peux comprendre tout à fait. Mais c'est ça, c'est qu'on s'appuie sur des canaux qui sont là depuis, bon, Facebook. 2008, 2007, 2008, dans ces eaux-là. Puis bon, Instagram qui est arrivé par après, que on le s'est bien racheté par Facebook et bon, ensuite, ça a pris de l'ampleur. Puis là, soudainement, c'est ça, bon, on ne débattra pas de la pertinence ou non du projet de loi C-18, mais le fait est qu'il a été adopté, qu'il est en vigueur et que là, Facebook, avant même l'entrée en vigueur, a décidé de couper les nouvelles. Donc, c'est ça. Clairement, pour des médias comme La Converse, pour des médias qui sont 100% numérique, on peut dire ça comme ça.
Effectivement, oui.
Donc, ça nous prend un canal de diffusion. Je voyais entre autres, bon, La Converse a son infolette, tout ça, mais c'est quelque chose qui prend du temps à développer, ça aussi. Donc, forcément, il y a un travail qui continue de faire. Puis, bon, TikTok, peut-être que quelque chose va changer bientôt. Là, ils ont bloqué certains trucs musicaux. Tu sais, bon. Et tout ça est toujours en évolution, puis j'ai l'impression que La Converse et, bon, toutes sortes d'autres médias font partie de ces organismes-là qui essaient toujours de rattraper l'espèce de retard qui n'est pas de leur faute que le retard soit accumulé, mais le retard existe parce que là, bon, il y a des changements, il faut s'adapter, ça prend du temps. Le temps qu'on s'adapte, il y a d'autres changements, l'algorithme a changé, tout ça a changé. Donc, c'est une course qui n'a pas de fin, là.
Mais tu sais, je te dirais que je sais pas si c'est une question de retard, je pense que c'est une question de ressources. Tu sais, comme tu sais, les médias indépendants, on n'est pas aux États-Unis. Tu sais, au Canada, aux États-Unis, j'ai fait plusieurs voyages d'affaires aux États-Unis, puis les médias comme La Converse sont financés à outrance aux États-Unis et très bien financés. Nous, on est au Canada, mais on est aussi au Québec. Donc, la culture de don est très petite, faut le dire. Là, c'est ce qu'on nous vend tout le temps. C'est audience engagement, je sais pas quoi. Bon, moi, je trouve que dans un contexte québécois, nous, surtout avec les communautés concerts, c'est pas ça qui va soulever les meubles. Donc, ça, c'est une chose. D'autre part, l'infolettre. Faut dire une chose. L'infolettre, c'est pas beaucoup de personnes qui veulent lire ton infolettre. D'autres choses, c'est que à un moment donné, si t'envoies, tu sais, j'avais cette discussion aujourd'hui, hier, avec une collègue qui me disait, ben, elle est là, qu'est-ce qu'on fait avec l'infolettre? Est-ce qu'on en envoie une par semaine? Parce que là, on est rendu à presque un article au deux jours. Je dis, ouais, mais si je fais ça, comment je vais faire pour rejoindre mon audience? Fait que, comment je fais avec mes autres articles? Comme j'ai accès à ces réseaux sociaux-là, comment je vais attirer le trafic vers le site web, tu sais? Fait que là, on se disait ça, puis en même temps, faut savoir que c'est ça, c'est pas tout le monde qui a envie de lire une infolette à chaque deux jours dans La Converse ou même dans la presse ou de Radio-Canada ou du Devoir ou peu importe. T'sais, moi, je sais que je suis abonnée à plusieurs infolettes. Franchement, quand j'en reçois trop, j'arrête de les lire parce que j'ai pas le temps. Puis mon courriel s'est rendu tellement anxiogène, ma boîte de courriel, que j'y vais pas pour me détendre dans ma boîte de courriel. Je pense qu'il y a très peu de gens qui consultent leur courriel pour se détendre. Donc, l'infolettre, ça marchait peut-être plus avant. Moi, je sais pas si je crois à 100% de dire que l'infolettre va sauver tous nos problèmes. Donc, c'est très difficile en ce moment de savoir comment faire en sorte que notre contenu soit plus connu, lu. T'sais, nous, c'est pour ça qu'on a développé, on a vraiment investi dans le marketing. Mm-hmm. Tu sais, je pense que ça continue de venir organiquement, mais tu sais, ce qui est frustrant dans cette loi, c'est que nous, on l'a pas demandé, cette loi-là, puis on est les parents pauvres de cette loi. On s'entend que dans l'argent qui sera versé aux médias, les plus grands bénéficiaires de cet argent-là seront les médias mainstream, les gros poissons, comme on dit. Et les médias indépendants, d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé en Australie, sont vraiment les patrons pauvres de cette voilà. Alors que on n'en a pas demandé, on l'a pas demandé. Donc moi, je suis très amère par rapport à ce qui se passe. Je me demande, tu sais, dans le 100 millions que Google versera aux médias canadiens, ben, quel pourcentage ira aux médias indépendants et les médias menés par des personnes racisées comme nous? Mm-hmm.
Mais effectivement, c'est une question qui se pose, puis bon, pour l'instant, on a peu de réponses.
Ouais.
Et effectivement, bon, on se demande un peu est-ce qu'on va survivre finalement? Est-ce qu'on va réussir à rester là? Parce que bon, clairement, on n'a pas les reins aussi solides que d'autres organisations établies depuis plus longtemps, puis qui ont peut-être bon, une plus vaste gamme de services, puis qu'eux autres ont de la publicité ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je voulais poser la question parce que bon, faut la poser aussi. Tu disais, bon, il n'y a pas de publicité, la culture de don au Québec, pas très développée au Canada non plus, peut-être un peu plus du côté anglophone, mais bon, quand même, on n'est pas les États-Unis donc, de ce côté-là. Comment est-ce qu'on finance la Converse?
Oui, c'est un casse-tête. Effectivement, il n'y a pas de publicité parce que moi, je pense que ça peut avoir un effet sur ce qu'on fait, puis c'est pas aligné avec nos valeurs. Puis la culture de don, tu sais, je veux dire, on fait des campagnes de sociofinancement, mais je veux dire, au prix que ça coûte, ça rapporte pas autant. Cette franche. Fait que tu sais, je me dis, c'est juste pour caser la coche, là, comme on dit. Cocher la case, excuse-moi. C'est juste pour cocher la case, mais c'est pas quelque chose qui, pour l'instant, apporte une grande source de financement. Donc, nous, on a décidé qu'on n'allait pas trop miser là-dessus. Donc, en fait, notre financement, depuis le début, provient beaucoup de la philanthropie. On a eu quelques financements de Google et de Facebook à travers des projets pour lesquels on a appliqué. Très peu de financement gouvernemental, un peu d'autofinancement. Donc, moi, quand je fais des conférences, etc., ben, tout l'argent que je fais va à la Converse. Certains projets, donc des financements par projet qu'on fait. Et là, on a aussi ouvert le studio Converse, donc qui nous permet d'avoir un autofinancement aussi. Donc, le studio Converse, c'est un studio balado où est-ce qu'on permet à des gens de louer nos studios pour faire la balado-audition, mais aussi on fait des projets en partenariat avec d'autres PNL dans le cadre des écoles Converse. Voilà. Fait que c'est pas mal ça.
Mais quand même, il y a quand même certaines choses. C'est pas tout noir, évidemment. Il semble avoir quand même certaines assises, certaines bases.
Oui, c'est clair qu'on a beaucoup réfléchi à la diversification de nos revenus pour pas avoir qu'un seul modèle d'affaires et pas justement se fier que sur un domaine. Donc, on réfléchit beaucoup à ça. Là, il y a quand même beaucoup de stratégies derrière. Là, en ce moment.
Et ça m'amène à ma dernière question de l'autre vue. Bon, on vient de le mentionner, il y a des choses qui sont un peu plus incertaines. Bon, ça a toujours été le cas un peu en journalisme. Mais la Converse, bien établie, a trouvé son public. Là, vous avez, bon, le studio de balado, vous avez l'école Converse. Vous rejoignez, bon, les gens à qui vous voulez parler. Donc, c'est déjà excellent comme résultat. C'est quoi la suite? Qu'est-ce qui s'en vient pour la Converse?
Qu'est-ce qui s'en vient? Ben, écoute, je sais pas en même temps, je te dis.
Est-ce qu'il y a des objectifs? Est-ce qu'il y a des choses où tu dis, bon, ben, dans 2 ans, dans 5 ans, j'aimerais qu'on arrive à cette étape-là?
La vision.
Rêve peut-être pour la Converse.
Ah, ben, c'est clair que moi, je pense que, tu sais, ça serait bien qu'on aille le même budget que certains grands médias au Québec, qu'ils ont les moyens de rêver. Et voilà. Donc, pour nous, la vision, c'est qu'on puisse vraiment avoir un budget qui nous permet de vivre à la hauteur de notre vision. Les écoles Converse, donc là, on a reçu un financement pour en faire pendant 2 ans. On est en recherche de financement pour payer les jeunes parce que nous, on ne croit pas au bénévolat, d'ailleurs, à la Converse. Donc, en fait, c'est vraiment pérenniser notre approche, pérenniser notre financement. Tu sais, on est dans une grande phase de croissance. Effectivement, on a des beaux locaux. On a beaucoup de jeunes qu'on forme. Tu sais, l'idée pour moi, c'est de les garder, d'offrir des postes permanents, de continuer à faire ce qu'on fait. Les écoles Converse, on en fait plusieurs. C'est fun de former plein de jeunes, mais l'idée, c'est de pouvoir leur offrir un poste. Donc, pour nous, la suite, c'est de continuer à faire ce qu'on fait. Bien et toujours mieux, et puis d'accroître notre public. Voilà, tu sais, je pense que c'est super important. L'idée pour nous, quand on a créé la Converse, c'était pas d'être un média alternatif. D'ailleurs, je critique beaucoup ce mot. C'est d'être un média tout court, où notre but, c'est de servir les communautés. Mais en fait, je dirais, la grande différence, c'est que, si je dis souvent, le leader, c'est une personne racisée, donc on a ses enjeux à cœur. Donc, notre essai est aussi composé de personnes racisées et minorisées. Donc, pour nous, ça veut dire que notre approche et notre mission et notre raison d'être est tout simplement différente. Mais on n'a pas choisi d'être alternatif Je pense qu'il y a une grande différence voilà, là-dedans. Donc, pour nous, la suite, c'est la croissance et j'espère l'existence à long terme. Là. Voilà.
Léla Savitch, fondatrice, rédactrice en chef de La Converse, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui.
Merci à toi de m'avoir reçu.
Et merci évidemment à ceux qui nous écoutent. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes sur pieuvre.ca. On est également sur Spotify et sur Apple Podcasts. En terminant, je vous invite, comme à chaque épisode, à vous abonner à notre infolettre chez pieuvre.ca. Donc, tous les samedis, vous avez l'ensemble des contenus publiés durant la semaine. C'est livré directement dans votre boîte de réception. C'est gratuit. Et pour vous abonner, c'est très, très simple. Vous allez sur le site. Dans la colonne de droite, il y a un formulaire à remplir. Ça prend quelques secondes. Et voilà, le tour est joué. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt.